Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de notre voyage à travers le côté obscur de Paris. Je m'appelle Zachary Boubli, je suis historien et aujourd'hui je serai votre guide à travers la face sombre de Paris. Regardez autour de vous, sur la place du Châtelet, sur la fontaine du Palmier, regardez ces belles avenues, ces théâtres. Maintenant, faites abstraction de tout cela et imaginez des ruelles sombres et encore auparavant, imaginez des prés en face d'une île peuplée de quelques maisons. Nous allons parcourir le quartier de Châtelet et des Halles à la découverte de meurtres, de complots, d'assassinats et de batailles qui vous donneront un aperçu du côté obscur de Paris, de la face sombre de cette belle ville. Alors Paris n'a pas été toujours une ville aussi étendue qu'aujourd'hui. En fait, l'île de la Cité est une sorte de berceau de cette ville. Et l'endroit où nous nous tenons ne faisait donc pas partie de Paris pendant des siècles. C'est-à-dire que après la chute de l'Empire romain, la ville qui avait débordé sur les deux rives s'était rétractée sur l'île de la Cité. Et donc, si nous prenons par exemple la fin du 9e siècle, nous serions hors de Paris, nous serions plus précisément sur une forteresse en bois qui barre l'entrée de Paris. Parce qu'il faut bien se dire que ce sont des époques d'invasion, des époques troublées de guerre, et Paris, au 9e siècle, doit faire face à un envahisseur bien particulier. Nous sommes au 9e siècle, donc nous sommes en pleine époque des invasions vikings. La particularité de ceux-ci, comme vous le savez, c'est qu'ils peuvent remonter les fleuves et donc frapper à l'intérieur des terres, ce qui prend en dépourvu la plupart des lieux qu'ils ciblent. Et en 885, une flotte viking immense, puisque celles-ci sont de plus en plus grandes au fil des générations, se présente devant Paris. Elle réclame le droit de pouvoir traverser la capitale, sans garantie bien sûr qu'ils ne reviendront pas plus tard. Et c'est en effet une tactique bien connue des vikings que de se présenter devant une ville, de la rançonner sous la menace, puis de décamper et de répéter le processus ailleurs, avant ensuite de boucler la tournée, parfois en faisant un aller-retour, en rançonnant une deuxième fois les villes. Donc, les vikings réclament aux parisiens de les laisser passer. Selon la légende, l'évêque de Paris leur aurait répondu que Paris leur avait été confié pour qu'ils la défendent, et que, s'ils laissaient passer les vikings, ils ne mériteraient pas mieux que d'avoir la tête tranchée et jetée aux chiens. Donc commence un siège de Paris qui va durer presque 2 ans. Les vikings se lancent à l'assaut de l'île de la Cité, ils établissent des campements sur tous les bords de la Seine. Les parisiens font des sorties régulièrement pour essayer de détruire les bateaux et les campements des vikings, mais les vikings verrouillent complètement la cité. Alors les parisiens tiennent parce qu'ils ont l'espoir d'avoir le secours de l'empereur Charles le Gros. Après les troubles qui avaient suivi la mort de Charlemagne, Charles III le Gros a réussi à rassembler les parties de l'Empire de Charlemagne et est censé accomplir son rôle de défenseur son empire, et donc son secours est attendu par les parisiens. Charles le Gros finit par arriver après un siège donc très très long, un siège au cours duquel des milliers de parisiens sont morts, au cours duquel les moines, les évêques, les prêtres sont retrouvés sur les remparts avec les défenseurs pour repousser les vikings. D'ailleurs, certaines hautes personnalités de Paris sont mortes dans ce siège. Et quand l'empereur arrive, les parisiens sont stupéfaits de voir l'empereur s'asseoir à la table des négociations avec les vikings. En fait, Charles III le Gros fait quelque chose qui politiquement est très intelligent. Il paye les vikings pour aller châtier la Bourgogne qui est en rébellion contre son autorité. Mais sur le long terme, c'est un acte catastrophique puisque les parisiens se sentent trahis et abandonnés. Ils ont l'impression d'avoir versé leur sang pour pouvoir acheter un moyen de pression à l'empereur. Et donc, ils vont de plus en plus vouloir confier le pouvoir au comte de Paris. Cette dynastie, on va les appeler les Robertiens. Trois personnages ont été nommés rois des Francs après avoir combattu un envahisseur, en général les Vikings. Et c'est de cette dynastie que va être issu Hugues Capet qui, au siècle suivant, presque exactement 100 ans plus tard, va remplacer la dynastie carolingienne et séparer définitivement la Francie occidentale de l'ensemble germanique. Alors, au fur et à mesure que Paris s'est agrandi, La place du Châtelet est devenue un lieu entre guillemets stratégique. C'est-à-dire que après l'invasion viking, la tour en bois a été reconstruite, puis elle a été remplacée par une tour défensive en pierre. Ensuite, avec l'agrandissement de la capitale, le Châtelet n'était plus le point d'entrée à l'île de la Cité. Il avait donc perdu sa vocation défensive. Et donc, le bâtiment a été reconverti en une prison, la prison du Châtelet. C'est une prison de très sinistre réputation qui a marqué fortement l'imaginaire des Parisiens. Donc voilà, à la place de la Fontaine, il faut imaginer une grande forteresse d'aspect sinistre en pierre. C'est une prison un peu particulière puisque la pension en fait y est payante. Bien sûr, ça dépend des époques, mais on a plein de traces qui montrent que si le détenu était fortuné, il pouvait payer pour avoir un peu plus de confort que ses congénères. C'était également une prison qui avait une horrible réputation à cause de certaines oubliettes qui étaient présentes. On peut citer par exemple la fosse qu'on appelait Findaise, qui était une sorte de terminal de tous les égouts du Grand Châtelet, dans lequel on pouvait jeter des prisonniers pour soit les torturer, soit leur faire connaître une mort atroce. On parlait également d'une fosse qui s'appelait l'Entonnoir, qui était conçue de façon à ce qu'on ne puisse ni s'appuyer sur les murs, puisqu'ils étaient hérissés de pics, ni se tenir debout, puisque la fosse était très basse, ni s'asseoir ou s'allonger, puisque la fosse était en forme d'entonnoir. Avec en plus les privations et les rats, on peut imaginer à quel point c'est horrible. Enfin, c'est un lieu qui offre un spectacle repoussant même depuis l'extérieur, puisque c'est ici qu'a été inventée une institution que la police connaît bien. C'est ici qu'en fait se trouvait la première morgue de l'histoire. En fait, Paris est une ville assez peuplée, quelle que soit l'époque, et donc il y a beaucoup de cadavres non identifiés. Bon, évidemment, on n'a aucun papier d'identité à l'époque, tout repose sur le fait que les gens se connaissent. Et donc, quand on a un cadavre non identifié, on va l'exposer devant le Grand Châtelet, puisque si ce n'est plus un lieu d'entrée dans Paris, ça reste un grand lieu de passage. On est devant le pont au change, un pont qui est plein de changeurs, de boutiques. Ce sont des ponts médiévaux, donc ils sont toujours garnis. Et donc énormément de gens passent par ici, c'est donc l'endroit où exposer les cadavres pour que les gens puissent les reconnaître. En vieux français, regarder se dit morguer, d'où en fait tout simplement le terme de morgue qui est passé dans le langage courant du français et même d'autres langues. Alors le Grand Châtelet a été détruit par Napoléon, puisqu'il était devenu obsolète avec l'agrandissement de la population, l'agrandissement de Paris. Il avait quand même été utilisé pendant la Révolution. Et donc Napoléon, à la place, a fait ériger cette fontaine du palmier qu'on voit aujourd'hui, qui, bon, évidemment, est ornée d'un aigle. Et le palmier, comme vous pouvez peut-être vous l'imaginer, sert à rappeler les victoires de Bonaparte en Égypte. Donc voilà, c'est devenu un symbole de pouvoir. Pour ce qui est des sphinx, ils ont été rajoutés après, a posteriori, par Napoléon III, puisque Napoléon III et le baron Haussmann ont énormément marqué cet endroit. Après toutes les histoires sanglantes, bien sûr, que nous avons vues. Alors maintenant, je vous propose de tourner le dos à la Seine et de chercher du regard sur votre droite une grande tour d'aspect médiéval. Elle est en pierre calcaire de Paris. Et je vous propose de traverser le carrefour pour rejoindre le square de la tour Saint-Jacques. Alors, nous sommes rentrés dans le square de la tour Saint-Jacques et vous pouvez vous rapprocher de celle-ci. Alors, la tour Saint-Jacques, elle porte encore le nom de la paroisse de laquelle elle faisait partie, puisque cette tour, c'est tout simplement un ancien clocher. Avant, il y avait une église donc dans la même pierre ici, une église qu'on appelait Saint-Jacques de la Boucherie, puisque nous étions dans ce qui a été pendant un moment le quartier des bouchers. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu mettre les bouchers à l'écart de la ville pour des raisons assez évidentes de bruit, d'odeur, de nuisance, etc. Mais évidemment, la ville a eu parfois eu tendance à rattraper les bouchers et donc le quartier des bouchers a fini par être englobé par Paris. Donc les bouchers, il faut se mettre dans la société médiévale, c'est une corporation, C'est-à-dire c'est un groupe social qui a ses intérêts, qui a ses codes, qui a ses réseaux et qui est extrêmement puissant, extrêmement important dans la ville puisque c'est un métier de bouche. L'homme du Moyen-Âge, surtout dans les villes, a tendance à être plutôt carnivore. Il ne mange pas forcément des morceaux qu'on mange aujourd'hui puisque la plupart sont des morceaux nobles réservés à l'élite. Mais on trafique et on mange et consomme énormément de pâtés. Qu'on va faire à partir des restes de carcasses, des différents abats, parfois même d'autres parties de l'animal, et qu'on va ensuite découper en morceaux pour les mettre en pâté. Alors, les bouchers se sont fait construire leur église, et c'est un quartier avec une réputation pas toujours très nette, puisque les bouchers, ce sont des gens qui sont réputés pour être violents. C'est des gens qui sont qui manient le sang tous les jours, des gens que le travail physique rend en général assez costaud, d'autant plus qu'ils ont en général ils ont plus accès à des protéines. Et donc, c'est un quartier qui va avoir une grande importance dans le Paris de la guerre de 100 ans. Puisque les bouchers font partie de cette société médiévale, des sociétés, ce qu'on appelle les sociétés urbaines, qui participent beaucoup plus qu'on l'imagine à la politique, à la société, à tout ce qui va se passer dans cette grande ville et qui reste la capitale du royaume. Par exemple, en 1358, on est à un moment très grave dans l'histoire de France et de Paris. On a un moment où on peut avoir en fait l'impression que les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont sur la France, puisqu'il y a la guerre avec l'Angleterre. On est au début de la guerre de 100 ans, donc la France perd bataille sur bataille. On a des problèmes de maladie, puisque en 1358, on est au moment de l'épidémie de peste noire, qui va tuer à peu près un tiers de la population européenne, surtout dans les grandes villes. Et puis on a tous les problèmes qui sont liés à la désorganisation du royaume et la violence qui se répand dans les campagnes, puisque la guerre de 100 ans est marquée par des chevauchées, c'est-à-dire qu'on a des cavaliers anglais ou à leur solde qui ravagent les campagnes. Bon, ça c'est le visage médiéval de la guerre, on cherche toujours à porter le conflit sur les terres de l'ennemi. Et donc à Paris il y a en plus de la famine. Ce qui fait que la situation se tend, et l'année 1358 est marquée par de nombreuses émeutes. La plus célèbre, bien sûr, c'est celle d'Étienne Marcel au mois de mai, qui va envahir le palais de l'île de la Cité. Mais là, on peut plutôt parler du 14 janvier 1358, quand un homme assassine le trésorier du roi et vient ensuite se réfugier dans l'église Saint-Jacques de la Boucherie. L'homme, en fait, veut bénéficier du droit d'asile qui interdit à quiconque de venir le chercher. Le prévôt de Paris et la foule ne s'en laissent pas compter et sortent manu militari le meurtrier de l'église. Il est traîné dehors, sa main est coupée et il est pendu devant l'église. Alors l'archevêque de Paris n'apprécie guère qu'on pende un cadavre devant une église, surtout après avoir violé le droit d'asile. Et il y a donc un conflit sourd qui entoure la boucherie. Alors, quelques générations plus tard, ce qui va se passer, là on est plutôt en 1413, là on est vraiment dans une autre phase de la guerre de 100 ans, on est à un moment où l'enjeu est d'une part la reconnaissance de l'un ou l'autre roi de France, puisque comme vous le savez peut-être, on a un prétendant anglais au trône de France en vertu du traité de Troyes, qui a été signé par le roi Charles VI le Fou, et on va avoir on va avoir ensuite, bien plus tard, un projet de mettre le dauphin sur le trône. Donc c'est un moment en fait d'affaiblissement du pouvoir royal où les sociétés urbaines du coup ont plus de marge d'expression, surtout que le royaume est dans une sorte de guerre civile. Quelques années auparavant a été assassiné le duc d'Orléans par des sbires du duc de Bourgogne. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et la situation se tend à l'intérieur du royaume entre le parti Armagnac et le parti Bourguignon. Et en fait, les bouchers vont rejoindre le camp Bourguignon. Et en l'année de grâce 1413, mené par un dénommé Simon Caboche, on l'appelle comme ça parce que c'est un écorcheur de tête, en fait, et les bouchers vont se soulever et attaquer les officiers royaux et les gens liés au parti Armagnac. Le pouvoir royal va faire appel au parti Armagnac justement pour rétablir l'ordre, et donc les Armagnacs, qui étaient non loin de Paris, vont rentrer dans la ville et vont massacrer les bouchers et massacrer les Bourguignons également, et vont rétablir un ordre royal très, très strict. Mais ça ne va pas non plus fonctionner, puisque 5 ans plus tard, les Parisiens en ont assez de la présence du parti Armagnac, et donc un nouveau soulèvement se produit, où donc les Bourguignons attaquent les Armagnacs, les bouchers, encore une fois, sont aux premières loges, et donc à ce moment-là, beaucoup de choses vont se passer au Châtelet. Le Grand Châtelet a une forteresse jumelle, on appelle le Petit Châtelet, sur la rive gauche. Le Grand Châtelet et le Petit Châtelet sont utilisés comme garnison par les Armagnacs. Donc en fait, les émeutiers vont aller au Petit Châtelet puis au Grand Châtelet pour y massacrer les occupants. Ce qui va se passer au Grand Châtelet, par exemple, c'est que, d'après les chroniques, les Bourguignons vont se tenir sous les fenêtres avec des piques, et une fois leur forteresse investie, parce que les défenseurs ont été enfumés, les Armagnacs vont être précipités sur les piques et s'embrocher sur celles-ci. Il y aura également de très nombreuses décapitations au Petit Châtelet, et donc tout ça fait encore une fois couler énormément de sang. Alors je vous propose maintenant de changer d'époque, et de regarder autour de vous. Si vous êtes face à la tour, vous pouvez vous tourner, regarder à nouveau vers le sud, et vous verrez une pierre rectangulaire à côté d'une autre, et je vous propose d'avancer jusqu'à ce mémorial pour y rencontrer l'homme qui en est l'objet. Alors, ce monument est dédié à un homme qui s'appelle Gérard de Nerval, pseudonyme de Gérard Labruni, et qui est un des plus grands poètes romantiques de sa génération. Alors, malheureusement pour Gérard de Nerval, cet endroit n'est pas associé à quelque chose de bien pour lui, puisque c'est l'endroit où il est mort. Alors, nous sommes le 26 janvier 1855, quelques années à peine avant les travaux d'Haussmann qui vont complètement dégager cette place avec la fin des ruelles étroites du Paris médiéval, celles que les bouchers avaient pu connaître. C'est à cet endroit que vont se croiser la rue de Rivoli et le boulevard Sébastopol, donc ça va être vraiment un carrefour pour Paris. On va également y édifier des théâtres. Juste derrière vous, il y a le Théâtre de la Ville, anciennement Théâtre Sarah Bernhardt. Et ce théâtre, en fait, avait une réputation d'être hanté par un fantôme, celui de Gérard de Nerval. Alors, le 26 janvier 1855, il fait moins de 10 degrés, c'est un jour extrêmement froid, et à cet endroit s'élèvent non pas un square et un théâtre, mais une petite ruelle qu'on appelle la ruelle de la Vieille Lanterne. Cette rue est fermée par une grille de fer que tous les matins, un dénommé Boudet, qui est serrurier et dont la boutique se trouve dans la rue, une grille en fer que Boudet ouvre tous les matins. Or, ce matin-là, Boudet remarque un détail pas des plus anodins. Il y a un homme pendu à cette grille. Boudet, évidemment, s'empresse de dépendre l'homme. Il appelle à l'aide. Nous sommes à Paris, donc, accourt très vite un sergent de ville, des curieux, un médecin, puis un deuxième médecin, puis encore plus de curieux. Tout le monde essaye de ranimer l'homme, mais bien évidemment, il est pendu depuis des heures par un froid glacial et il n'y a donc aucune chance de le récupérer. Alors, à l'époque, la morgue n'est plus un exposoir à cadavres qu'on trouve devant le Grand Châtelet. À cette époque, la morgue a été transférée à l'hôtel de ville. On y amène donc l'homme, puisque l'homme n'a aucun papier d'identification sur lui. Et il va finir par être reconnu, et c'est Gérard Labruni, dit Gérard de Nerval. Et le factionnaire de la morgue de l'hôtel de ville va avoir la surprise de voir le Tout Paris littéraire défiler dans sa morgue et se lamenter devant le cadavre de leur ami. On va voir Alexandre Dumas, les frères Goncourt, Théophile Gautier. Alors, on va rapidement conclure au suicide de l'homme. L'homme a été retrouvé pendu avec un lacet de femme. Et surtout, il avait un historique de personnalité compliquée. C'est-à-dire que Gérard de Nerval, c'est un homme qui faisait des crises de folie. Quelqu'un qui parfois passait la nuit à distribuer des insectes en papier dans la rue. Quelqu'un que Victor Hugo avait croisé au jardin de Luxembourg avec un homard au bout d'une laisse et qui rétorquait aux passants « En quoi un homard est-il plus ridicule qu'un chat, qu'une gazelle, qu'un lion ou que tout autre animal dont on se ferait suivre ?» Voilà, Gérard de Nerval, c'était parfois quelqu'un qui était obsessionnel, quelqu'un qui pouvait passer sa journée à Chantilly pour simplement décrire un coucher de soleil, et quelqu'un dont la sensibilité transparaît à travers ses poèmes. Par exemple, son recueil « Les filles du feu » qui préfigure le surréalisme. C'est quelqu'un qui explorait beaucoup l'intériorité, la sensibilité, qui était presque le plus romantique de tous les romantiques. Gérard de Nerval, en tant que suicidé, n'aurait pas dû avoir droit à des obsèques religieuses à la cathédrale Notre-Dame, mais l'archevêque de Paris a accepté de considérer que Gérard de Nerval était mort de sa folie et que c'était celle-ci qui l'avait poussé à se suicider. Il ne reste donc plus grand-chose de la scène de la mort de Gérard de Nerval, puisque, comme nous l'avons dit, la rue a été détruite, le square a été aménagé, mais cette stèle rappelle sa mémoire et vous permet de vous plonger dans son univers à travers son poème « El desdichado ».
Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille où le pampre à la rose salit.
Nous allons maintenant quitter le square de la Tour Saint-Jacques. Devant vous, à gauche, vous voyez une autre sortie du parc. Alors, sortez par la gauche, traversez ensuite la rue de Rivoli, puis le boulevard Sébastopol. Continuez vers votre gauche, restez sur le côté nord de la rue de Rivoli, et puis avancez vers l'ouest, en direction du Louvre, jusqu'à ce que vous voyez une bouche de métro, et ce sera le lieu où, ce sera le lieu de notre prochaine histoire. Sur la place Sainte-Opportune. Alors, depuis la place Sainte-Opportune, si vous regardez à votre droite, vers le nord, vous allez voir une petite rue qui s'appelle la rue Courtalon, dans laquelle s'est déroulée une des plus célèbres affaires criminelles de la capitale. Alors, les versions divergent. Cette histoire ne s'est pas forcément passée rue Courtalon. D'autres versions la placent plutôt dans la rue du Trésor, du côté du Louvre. Néanmoins, vous devez absolument connaître cette histoire. C'est une histoire qui se passe en 1684, à une époque où Paris traverse, une fois de plus, une mauvaise passe. En 1684, le roi, en effet, n'est plus à Paris. Louis XIV a quitté le Louvre et a emmené la cour à Versailles. Et avec la cour, c'est toute la garde royale qui s'est déplacée hors de la capitale. D'ailleurs, c'est Versailles qui est devenue la capitale du royaume. Dès lors, dans Paris, ville surpeuplée, la situation sécuritaire devient catastrophique et le crime est à tous les coins de rue. Et c'est pour y remettre de l'ordre que Louis XIV va nommer un homme dénommé Gabriel Nicolas de la Reynie comme lieutenant général de police. Gabriel de la Reynie est un peu le visage du renouveau de l'institution policière, puisqu'il va prendre des mesures très fortes dans les imaginaires et dans les faits. Il va par exemple faire installer des éclairages publics à chaque coin de rue. Et c'est comme ça que Paris va gagner son nom de ville lumière. Ça n'a rien à voir avec l'esprit des lumières, l'art ou la beauté. C'est tout simplement une ville qu'on éclaire pour y réduire la criminalité. Et certains des hommes de main de Gabriel de la Reynie vont s'atteler à résoudre certaines affaires criminelles qui préoccupent plus particulièrement les autorités. En effet, depuis quelques semaines, plusieurs jeunes hommes de bonne famille, des nobles et de hauts bourgeois, disparaissent sans laisser de traces dans le quartier des Halles. Alors évidemment, nous sommes à Paris, donc des rumeurs se mettent à parler de démons, de complots, d'empoisonnement. On est également au moment de l'affaire des poisons et les gens peuvent devenir assez imaginatifs. Mais c'est une affaire qui préoccupe énormément les autorités puisque ces disparitions ne sont pas des disparitions de gueux, ça arrive tous les jours, mais ce sont vraiment des disparitions de jeunes nobles. C'est donc entre guillemets l'avenir de la noblesse qui semble menacé. Alors, de la Reynie va mettre un de ses meilleurs hommes sur l'affaire, un dénommé Benoît Lecoq, qui est une grande figure historique de la maison Poulaga. Et Benoît Lecoq va donc enquêter pendant des jours et des jours dans le quartier des Halles, mais sans trouver le début d'un commencement d'indice. Il décide donc de changer de méthode et fait appel à un de ses hommes qui s'appelle Exupère, qui est extrêmement jeune et extrêmement vif d'esprit, on le surnomme l'éveillé. Exupère est assez jeune pour pouvoir se faire passer pour un jeune noble et ainsi découvrir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui aiderait tous ces gens à disparaître. En langage policier, on appelle ça une chèvre. Et ce qu'il faut bien se représenter à l'esprit, c'est que pour Benoît Lecoq, c'est une mission un peu particulière qu'il confie à Exupère, puisqu'Exupère est son fils. Alors Exupère se déguise en jeune noble et commence à déambuler entre le Louvre, le Jardin des Tuileries et les Halles afin d'attirer l'attention des éventuels meurtriers. Dans le cimetière des Innocents, un soir, le cimetière des Innocents à l'époque se trouvait à l'emplacement de l'actuelle fontaine Joachim du Bellay, qui est littéralement à 20 mètres au nord. Il rencontre une jeune femme dans... Il rencontre une vieille gouvernante dans le cimetière des Innocents qui lui raconte une histoire très émouvante. Cette gouvernante serait au service d'une comtesse polonaise nommée Jabirowska, qui serait jeune, belle, riche et sensible, qui serait l'orpheline d'un noble polonais qu'il aurait reconnu après avoir engrossé sa mère, qui, pris de remords, en aurait fait son héritière après qu'elle ait grandi dans la pauvreté, et qui serait mort quelques semaines auparavant. Ainsi, la comtesse Jabirowska serait venue à Paris pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Serait venue se recueillir sur la tombe de sa mère. Et la comtesse Jabirowska serait venue à Paris pour se recueillir sur la tombe de sa mère, que la gouvernante cherche désespérément dans le cimetière des Innocents. Et la comtesse serait également venue à Paris pour se marier. Or, la gouvernante fait remarquer à Exupère qu'il est jeune, beau et bien portant, et qu'il pourrait donc faire un prétendant idéal pour la belle comtesse. Elle donne donc rendez-vous à Exupère. Sur la place Sainte-Opportune le soir même pour rencontrer la comtesse. Bien entendu, Exupère prévient son père et se lui rend au lieu de rendez-vous une fois le soir tombé, avec évidemment une escorte cachée dans les rues alentours, puisque Benoît Lecoq est prêt à intervenir et n'a pas envie que son fils connaisse le même sort que tous ces nobles qui ont disparu. Exupère rencontre donc une jeune femme qui se présente comme la dame de chambre de la comtesse Jabirowska. Cette dame l'entraîne dans une maison de la rue Courtalon, nous ne savons pas laquelle, et sans transition, commence à déshabiller Exupère après l'avoir entraîné dans une chambre, et elle-même se déshabille. Exupère ne comprend guère ce qui se passe, mais se retrouve au paradis en quelques instants, puisque la femme lui fait assaut de gentillesse. Il oublie donc que son père est posté dans la rue, et il oublie de donner le signal convenu. Benoît Lecoq va finir par prendre l'initiative de défoncer la porte et de rentrer dans la maison pour la fouiller, et il arrive juste à temps, puisque dans le couloir qui mène à la chambre, il y a quatre hommes avec des couteaux et des gourdins qui semblent décidés à accomplir une sinistre besogne. Les quatre hommes sont maîtrisés assez rapidement, et Benoît Lecoq entre triomphalement dans la chambre pour annoncer à Exupère que l'appât a réussi. On peut bien sûr s'imaginer le désarroi d'Exupère en voyant son père déambuler dans la chambre alors qu'il est occupé. Alors les complices sont arrêtés, mais la femme réussit à s'enfuir, elle trompe la vigilance des policiers. Et puis ensuite, ceux-ci voient leur attention attirée par la fouille de la maison. Ils fouillent la maison et dans la cave, ils trouvent quelque chose d'extrêmement sinistre. Ils trouvent une étagère avec une vingtaine de têtes coupées dessus. Nous sommes à l'époque où les sciences sont en plein essor, et parmi les nombreuses hypothèses que les savants explorent, il y a les balbutiements de ce qu'on appelle, ce sera plus tard, la phrénologie, la science des crânes. Une science qui dit qu'on peut prévoir l'intelligence et le caractère des individus en fonction de la forme et de la taille de leur crâne. C'est une science qui se base sur des données empiriques et qui donc a besoin de pouvoir mesurer des crânes. Alors il est facile de trouver des crânes de gueux pour les mesurer, mais les crânes de nobles sont bien plus difficiles à trouver. Rappelez-vous qu'à l'époque, on pense que les nobles ont par exemple le sang bleu, qui sont d'une constitution supérieure à la normale. Et donc en fait, cette femme fait un commerce de têtes qu'elle expédie en Allemagne contre espèces sonnantes et trébuchantes. Et pour se débarrasser des cadavres, elle se sert tout simplement de l'interdiction des dissections que l'Église impose aux étudiants en médecine, puisqu'elle va vendre ses cadavres frais aux étudiants de médecine peu scrupuleux. Pour eux, c'est une meilleure méthode pour s'entraîner et découvrir l'anatomie que d'aller déterrer des cadavres au cimetière des Innocents, puisque ça aussi, ça arrive. Alors, la femme va ensuite rejoindre Londres, où elle se reconvertira en cambrioleuse. On pense que son nom était Olympia Guilford, sans aucune certitude quant à la véracité de ce nom. Je vous l'ai dit, nous ne savons pas si cette histoire s'est vraiment passée dans la rue Courtalon. Peut-être s'est-elle passée dans la rue du Trésor, peut-être s'agit-il d'une déformation, comme les Parisiens aiment tant les faire. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une histoire qui mérite d'être entendue. Je vous propose maintenant de quitter la rue Courtalon, et d'avancer quelque peu vers le nord. Vous allez tomber sur la rue des Lombards, qui va ensuite vous mener rue de la Ferronnerie. Prenez comme point de repère les arcades et le bar, le cœur couronné, et cherchez une plaque au sol avec une fleur de lys. Nous sommes rue de la Ferronnerie maintenant, une des rues les plus anciennes de Paris, une des rues qui porte encore le nom du métier qui s'y exerçait. Si vous avancez jusqu'au numéro 4, devant la boutique Otakos, vous remarquerez au sol une plaque avec des grilles en fer forgé, des fleurs de lys, une date, le 14 mai 1610, et un nom, celui d'Henri IV. Vous le savez peut-être, c'est ici qu'Henri IV a été assassiné par François Ravaillac. Le matin de sa mort, Henri IV pouvait jeter un regard satisfait sur son œuvre. Après des années de guerre, il avait enfin réussi à s'établir sur le trône de France, lui qui en était devenu l'héritier à la mort de François duc d'Alençon quelques décennies plus tôt, en vertu de son lien de parenté avec Saint-Louis. En tant que protestant, il avait été rejeté par la quasi-totalité de la population catholique de France, et notamment par la Ligue des Grands Nobles, qui avait juré d'empêcher un hérétique d'accéder au trône de France. Grâce à des alliances et grâce à sa vaillance, Henri IV avait fini par triompher de la Ligue, et en abjurant le protestantisme, il s'était enfin donné l'acceptabilité nécessaire au fait de pouvoir devenir roi de France. Vous connaissez sans doute son mot « Paris vaut bien une messe », et c'est ainsi qu'il a pu recevoir le sacre. Alors il a la particularité de ne pas avoir été sacré à Reims comme la plupart des rois de France, mais à la cathédrale de Chartres. Ce matin du 14 mai 1610, donc, Henri IV a rétabli la paix dans le royaume. L'économie se porte bien. Vous connaissez peut-être aussi l'image du bon roi Henri IV désirant que chaque Français puisse mettre la poule au pot. Alors l'image du bon roi Henri est une construction a posteriori. En fait, le passé protestant d'Henri IV le rendait extrêmement impopulaire auprès de la population générale, notamment à Paris. Il reste que le 19e siècle, dans un esprit de concorde nationale, a voulu voir en Henri IV une figure de souverain acceptable pour même une mémoire républicaine de la France, puisque Henri IV aurait été un des rares rois à se préoccuper du bien-être de son peuple. Ce matin du 14 mai, donc, Henri IV a remis de l'ordre dans le royaume et il prévoit désormais de s'attaquer à l'ennemi héréditaire depuis plusieurs générations de la monarchie française, le pouvoir des Habsbourg. Il planifie en effet une invasion des Pays-Bas, les Pays-Bas qui à l'époque sont le poumon économique de l'empire des Habsbourg et qui pourraient donc porter un grand coup à la suprématie espagnole en Europe et dans le monde. Pour préparer cette invasion, Henri IV a besoin de s'en entretenir avec son principal ministre, Maximilien de Béthune, dit Sully. L'homme fidèle devrait quitter son hôtel qui est proche de l'actuelle place des Vosges, qui s'appelle l'hôtel de Sully, pour venir s'entretenir avec le roi au Louvre. Or, ce jour-là, Henri IV décide non pas de convoquer Sully au Louvre, mais plutôt, lui, d'aller le visiter à son domicile. En effet, Henri IV a appris que la veille, Sully a fait quelque chose que les gens de l'époque ne font très peu. La veille, Sully a pris un bain. À l'époque, on pense en fait que l'air et l'environnement sont remplis de miasmes qui sont la cause des maladies, de l'intérieur du corps ne peuvent venir que des bonnes choses. Et que donc la présence d'une couche de crasse, parfois assez importante sur le corps, Henri IV lui-même en est un bon exemple, on disait qu'il avait une paire de bottes qu'il n'avait pas retirées pendant des mois, on disait parfois aussi qu'il se frottait avant de dormir avec un mélange d'œufs, de farine et de sucre, pour se protéger des insectes, des moustiques et des miasmes. Et donc l'existence de cette couche est censée vous protéger des mauvaises choses qui viennent de l'extérieur. Donc, si Sully a pris un bain, Henri IV considère que Sully est vulnérable, qu'il est affaibli. Et donc il ne va pas le faire risquer d'attraper quelque chose de terrible en traversant les rues de Paris. Et donc Henri IV prend son carrosse du Louvre, ne prend qu'une escorte très très minimale et commence à traverser le quartier des Halles en direction du Marais. Il passe par la rue de la Ferronnerie, qui est à cette époque une rue assez large par rapport à l'époque, mais qu'aujourd'hui on considère comme extrêmement étroite, puisqu'elle ne fait pas plus de 5 ou 6 mètres de large. Et bien entendu, elle est encombrée d'étals, puisque la rue de la Ferronnerie, vous vous en doutez, c'est la rue des Ferronniers. Donc, Henri IV est pris dans un embouteillage. Et pendant que son carrosse est bloqué et que ses gardes s'affairent à dégager le passage, un homme monte sur le carrosse en posant pied sur la roue, et à travers la fenêtre ouverte, parce qu'il fait chaud et donc les fenêtres du carrosse sont ouvertes, l'homme poignarde Henri IV. Il parvient à le poignarder deux fois et en deux coups, il tranche la veine cave et l'aorte. L'homme s'enfuit par la rue des Lombards, mais est vite rattrapé. Et Henri IV, malgré ses protestations, qui dit « Ne le tuez pas, je n'ai rien », commence à se vider de son sang et mourra quelques instants plus tard. Ainsi, le premier souverain des Bourbons n'est plus. Alors, l'interrogatoire de Ravaillac révèle un profil fanatique. Ravaillac est ce qu'on pourrait appeler un jeune catholique radicalisé, qui, à force d'écouter des sermons dénonçant le roi hérétique, a décidé de prendre les choses en main lui-même. Plusieurs exemples, cependant, plusieurs indices, ont depuis des siècles nourri le soupçon d'un complot ourdi de façon très intelligente par d'anciens membres de la Ligue et par ou d'anciens proches du roi Henri III, dont par exemple le duc d'Épernon qui était présent dans le carrosse au moment où Ravaillac a frappé et qui, ce que lui ont reproché beaucoup, n'a rien fait pour empêcher la mort du roi. On évoque aussi de possibles complicités de l'entourage de la reine. En effet, après son premier mariage avec la reine Margot, quelques jours avant la Saint-Barthélemy, Henri IV s'était ensuite remarié avec Marie de Médicis, issue d'une des familles les plus riches et les plus influentes d'Europe, mais il l'avait épousée après avoir été sacré roi, ce qui fait que Marie n'avait jamais été sacrée reine, et elle s'était depuis entreprise à insister pour qu'on lui accorde enfin le sacre qui ferait d'elle de plein droit la reine de France. Henri IV avait fini par céder, et le sacre de Marie de Médicis avait eu lieu le 13 mai 1610. Le lendemain, Henri IV était assassiné, et ainsi Marie de Médicis pouvait légitimement devenir reine de France sur les conseils de son favori Concini et de son épouse Galigai. Pour ce qui est de Ravaillac, son procès va être très court, il va être torturé, interrogé, et deux semaines plus tard, le 27 mai, il est conduit en place de grève, l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, où il est déshabillé, tenaillé sur tout le corps, puis écartelé. Tel est le supplice qu'on réserve au régicide. Vous allez maintenant continuer la rue de la Ferronnerie vers l'est, puis vous tournerez à gauche dans la rue Saint-Denis, et ensuite vous allez tourner à droite dans la rue Berger, dépasser le KFC, traverser le boulevard Sébastopol, et ensuite avancer dans la rue Aubry-le-Boucher, jusqu'au niveau d'une petite place carrée qui s'ouvrira sur votre droite. Vous êtes maintenant à l'angle de la rue Saint-Martin et de la rue Aubry-le-Boucher, nommée ainsi d'après un célèbre boucher médiéval, sur une petite place nommée d'après Edmond Michelet, sur le lieu où s'est déroulée une affaire qui, en 1910, avait passionné les foules et divisé la France. Cette affaire, elle est liée à un homme qui s'appelle Jean-Jacques Liabeuf, qui est originaire de Saint-Étienne, qui est né en 1886, en pleine révolution industrielle. Issu d'un milieu extrêmement modeste, fils d'ouvrier, Liabeuf perd son père à l'âge de 4 ans et grandit dans la misère avec ses deux sœurs et sa mère veuve. Sa mère souhaite en faire un ouvrier qualifié pour qu'il ait une meilleure vie que les ouvriers des usines qui s'entassent à Saint-Étienne ou dans les faubourgs de Paris. Il entreprend ainsi un apprentissage de cordonnier puis un apprentissage d'armurier. Condamné plusieurs fois pour des larcins, il passe par la prison, et à sa troisième condamnation, il se retrouve banni de Saint-Étienne pour 5 ans. Rappelez-vous qu'à l'époque, les ouvriers ne circulent pas librement en France, ils sont soumis en effet à la réglementation du livret ouvrier. Et ce livret, pour Liabeuf, porte la mention « banni de Saint-Étienne ». Avec d'autres indésirables, il est ensuite envoyé en Afrique comme un châtiment pour combattre dans les guerres coloniales et connaît là-bas des conditions de vie extrêmement difficiles, bien pires encore que celles qu'il peut connaître en tant qu'ouvrier de Paris. À son retour en France, il s'installe à Paris comme cordonnier et rencontre une femme du nom de Alexandrine. Alexandrine exerce un métier que pratiquent énormément de femmes dans le quartier des Halles, qui à cette époque est un des endroits les plus malfamés de Paris. Alexandrine exerce le métier de prostituée. Et, comme beaucoup de prostituées, elle est pourvue d'un souteneur, un maquereau, qui s'appelle Gaston. Et Gaston n'est pas très heureux de voir que Alexandrine passe tout son temps avec Jean-Jacques Liabeuf, sans le faire payer. Gaston va donc se servir de ses réseaux pour faire tomber Liabeuf. Et cela va être très simple pour lui, puisque Gaston, en plus d'être un maquereau, est un mouchard. C'est un indicateur, puisque les maquereaux sont très peu respectés dans cette société marginale de Paris. Et donc, Gaston, en fait, garde sa position, échappe à la police en dénonçant en dénonçant ce qu'il peut, des petits larcins, des concurrents, des choses comme ça. Il va donc aller à la police et dénoncer Liabeuf comme proxénète. La police à l'époque étant bien moins efficace et bien plus corrompue qu'aujourd'hui, Liabeuf est donc arrêté pour proxénétisme et il passe en jugement. Évidemment, il est pourvu d'un avocat qui est commis d'office. Et le jour de son procès, son avocat ne se présente pas et fait lire au tribunal une lettre envoyée par pneumatique dans laquelle il s'excuse d'être retenu par un déjeuner en ville, mais assure Liabeuf de son soutien et qu'il est persuadé que Liabeuf pourra se défendre lui-même. Bien entendu, Liabeuf, qui sait à peine lire et écrire, qui comprend à peine pourquoi on l'accuse de proxénétisme, se démène, Liabeuf s'énerve en plein tribunal, Liabeuf hurle, insulte la cour, et Liabeuf se voit condamné pour proxénétisme. Il est donc à nouveau condamné à quelques mois de prison et à nouveau à de l'exil. Mais c'en est trop pour Liabeuf. Liabeuf a donc perdu son amour, mais Liabeuf a aussi perdu son honneur. Sa condamnation pour proxénétisme est en effet une chose infamante. Nous l'avons dit, à l'époque, personne ne respecte les proxénètes. Il veut donc faire payer les gens qui rendent sa vie misérable depuis son enfance. Ne pouvant se venger sur Gaston, puisque celui-ci, apprenant la sortie de prison de Liabeuf, a pris la poudre d'escampette, ne pouvant retrouver Alexandrine, puisqu'il n'a aucune idée de où lui écrire, il n'a aucune idée de comment la trouver, et elle a quitté le quartier en même temps que Gaston, Liabeuf décide donc de se venger sur les flics. C'est eux qui paieront l'enfer qu'est sa vie depuis sa naissance. Pour cela, il va mettre à profit sa formation. Rappelez-vous qu'il a été formé comme armurier, puis comme cordonnier. Et il va se fabriquer des bracelets en cuir qu'il va hérisser de pointes métalliques. Il se fait deux paires, une paire pour ses poignets, ça lui servira d'arme offensive, et une paire sur ses épaules, ça lui permettra d'éviter d'être attrapé facilement. Il est également muni de couteaux de cordonnier, donc des couteaux qui coupent comme des rasoirs faits pour trancher le cuir, et il dégote même un petit revolver rouillé, mais quand même mortel. Et donc le 8 janvier 1910, Liabeuf, passablement ivre, déambule dans la rue Aubry-le-Boucher dans l'espoir de trouver un flic à tuer. Arrêté par une patrouille, il profite de l'effet de surprise pour se jeter sur un policier et le tue en quelques secondes. Mais le deuxième a le temps de faire usage d'une invention qui va révolutionner le visage de la police, c'est le sifflet. Là, on est quelques années après les années de Louis de Lépine comme préfet de police de Paris. Le fameux préfet nommé par Clémenceau, l'inventeur du concours Lépine. Et Lépine avait également doté la police de bâtons, d'uniformes reconnaissables et de sifflets qui émettent un son distinctif et audible de très loin, qui permet à la police d'appeler des renforts facilement. C'est ce qui se passe, et d'autres policiers accourent. Liabeuf réussit à en tuer un autre, mais au final, il est maîtrisé par 6 policiers. Il est ensuite conduit au commissariat, et l'affaire va devenir objet d'articles à sensation. On est en effet à l'âge d'or de la presse écrite, de plus en plus de gens savent lire et certains journaux tirent à plus d'un million d'exemplaires tous les jours. Et le cas de Liabeuf va rapidement passionner les journaux. D'une part, pour la presse grand public, Liabeuf est l'exemple vivant du dicton « classe laborieuse, classe dangereuse ». Il est la preuve que les ouvriers sont des gens dangereux, alcooliques et violents. Ainsi, la presse illustrée va dépeindre Liabeuf comme un affreux criminel, et vous avez de nombreuses unes qui montrent l'infâme Liabeuf, soit insulté par la foule, soit maîtrisé par les braves policiers. Mais une autre presse va s'emparer de l'affaire, c'est la presse d'extrême gauche. Nous sommes en pleine agitation du mouvement socialiste, les années anarchistes sont un souvenir encore très proche, et un journal au titre évocateur qui s'appelle « La guerre sociale » va voir en Liabeuf un martyr. Ils vont le surnommer, ils vont faire un rapprochement avec Dreyfus. Rappelez-vous, là encore, on est seulement quelques années après une affaire qui a déchiré le pays entier. Et pour eux, Liabeuf va en fait être un martyr, va être la preuve que la société capitaliste pousse toute une frange de la population dans le crime et la misère. Ils vont donc récolter de l'argent pour pouvoir payer un avocat à Liabeuf, et lors de son procès, Liabeuf sera effectivement défendu. Malheureusement pour lui, Liabeuf est un tueur de flics et n'a donc aucune chance d'échapper à la guillotine. Le jour de son exécution, qui doit avoir lieu à la prison de la Santé, une foule immense s'est massée devant la prison pour réclamer sa grâce. Une foule rameutée par la presse d'extrême gauche. De façon très intelligente, le directeur de la prison annonce que l'exécution est de toute façon reportée, puisque le bourreau, M. Drebler, serait en vacances en Normandie et n'aurait pas pu rentrer à Paris à temps. Le directeur attend en fait que la foule se lasse de rester à attendre que l'exécution ait ou ait non lieu. Et quelques jours plus tard, lorsque la foule s'est dispersée, Liabeuf est finalement guillotiné. Jusqu'au bout, il aurait crié « Je ne suis pas un souteneur, je ne suis pas un proxénète, je ne suis pas un souteneur, je ne suis pas un proxénète » avant que le rasoir de Dreibler ne mette fin à sa vie. L'histoire n'est pas tout à fait terminée, car lorsque Liabeuf a tué des policiers dans la rue Aubry-le-Boucher, un petit garçon avait assisté à la scène, un petit Gavroche des Halles. Ce garçon s'appelait Robert Desnos, et quelques années plus tard, il deviendra un des plus grands poètes surréalistes de l'entre-deux-guerres, avant de mourir en déportation pour fait de résistance. Robert Desnos a écrit un poème qui s'appelle « À la caille », entièrement rédigé en argot des Halles de la Belle Époque, un poème dans lequel il évoque Liabeuf, qui de sa lame tatoue Aubry au Résiné. Continue maintenant la rue Aubry-le-Boucher dans le sens de la marche jusqu'à présent, jusqu'à arriver à l'ombre du centre Pompidou. Sur votre droite, vous verrez une fontaine pleine de couleurs, la fontaine Igor Stravinsky. Traversez-la, vous pourrez remarquer au passage que la rue s'appelle Brise-Miche, d'après une ancienne boulangerie qui brisait les miches pour les donner aux pauvres. Puis, prenez ensuite par la rue du Renard, tournez à droite et allez jusqu'à la place de l'Hôtel de Ville. Vous êtes maintenant sur la place de l'Hôtel de Ville, qui est peut-être le lieu le plus important de l'histoire de Paris. Paris s'est en effet développé grâce au commerce fluvial de la confrérie des Nautiers, qui avait pour habitude d'échouer leurs bateaux sur la Grève, qui a donné son nom à cette place. Cette place s'appelait en effet la place de Grève. C'est là qu'on y a trouvé ensuite ce qu'on appelait d'abord le parloir aux bourgeois, qui est ensuite devenu l'Hôtel de Ville, dans le sens du siège de la prévôté des marchands de Paris. Par ailleurs, lorsque les bateliers de la Seine cessaient le travail, tous se mettaient en grève en échouant leur bateau devant l'Hôtel de Ville, d'où l'expression « faire la grève ». Et vous en avez peut-être conscience, la place de Grève n'avait pas que cette utilité. Elle servait en effet à un spectacle que les gens du Moyen-Âge puis de la Renaissance se pressaient pour voir, puisque c'est en place de Grève qu'avaient lieu les exécutions. Alors nous parlons des exécutions dans une société d'Ancien Régime. Ce sont des sociétés où l'idée d'égalité des citoyens n'existe pas, et où donc la façon de mourir va être déterminée soit par le crime, soit par le rang social du condamné. Pour les crimes de droit commun punis de mort, le condamné sera décapité à la hache ou à l'épée selon son choix s'il est noble, mais s'il est roturier, il sera tout simplement pendu. Et puis, des châtiments plus spécifiques existent pour des crimes particulièrement graves. Vous savez ainsi que les hérétiques sont brûlés ou sur un bûcher. Les régicides, qu'ils aient réussi ou non, sont écartelés. Mais on pourrait citer par exemple le cas des faux-monnayeurs que l'on avait pour habitude au Moyen-Âge de placer dans un chaudron d'eau froide en allumant un feu en dessous, le temps que toute la populace ait le temps de venir jeter des insultes et des ordures à la face du condamné, jusqu'à ce que l'eau du chaudron se mette à bouillir et que le condamné en meure. Sur cette place s'est déroulée en 1792, le 25 avril, une exécution qui nous semble particulièrement importante de mentionner. Ce jour-là, donc, 25 avril 1792, une foule se presse comme d'habitude avant chaque exécution sur la place de Grève pour voir l'exécution. Or, sur l'échafaud, l'espèce d'estrade en bois qui trône, que l'on a dressé au milieu de la place, sur l'échafaud donc ne se trouve ni Billot ni Potence, mais à la place, ce qui ressemble à un étrange assemblage d'objets. Les Parisiens croient reconnaître une fenêtre, une table, une planche et une corbeille. Peu de gens se doutent de ce qui va se passer, mais voilà déjà qu'arrive la chariote ocre du bourreau Charles-Henri Sanson. Charles-Henri Sanson est un des bourreaux de Paris les mieux connus de l'histoire grâce à son journal qu'il a laissé, dans lequel il documente la plupart de sa vie quotidienne sous l'Ancien Régime, puis sous la Révolution. La charrette de Charles-Henri Sanson est ocre, les habits de Sanson sont rouges, car dans la société d'Ancien Régime, le bourreau vit en marge de la société et doit donc signaler sa différence par des signes visibles. Sur la charrette se trouve un dénommé Nicolas Pelletier, qui est un banal voleur et assassin, qui a été choisi pour être exécuté ce jour-là d'une façon révolutionnaire. Les Parisiens voient la charrette s'approcher de l'échafaud. Pelletier en est descendu par Samson et ses fils. Ses mains sont liées dans son dos. Il est ensuite conduit au sommet de l'échafaud en montant les marches. Là, Samson l'attache à la planche, renverse la planche à l'horizontale sur la table, puis il pousse Pelletier sur sa planche, sur la table, jusqu'à ce que la tête de Pelletier passe à travers la fenêtre, du moins ce qui y ressemble. Samson va ensuite tirer un levier, et les Parisiens voient monter une lame métallique en biseau, qui d'un seul coup s'effondre et tranche la tête de Pelletier. Le corps de Pelletier est basculé dans la corbeille. La corbeille est remplie de sable, ce qui va en fait absorber le flux de sang de Pelletier. Et pour montrer que la justice a été servie, Samson ramasse la tête de Pelletier et la présente à la foule. Les Parisiens viennent en fait d'assister à la première exécution publique, à la guillotine. Nous sommes en effet en pleine révolution. Nous sommes à l'époque plus précisément de la Convention girondine. Et la peine de mort a été aménagée. Désormais, pour refléter l'égalité de tous les citoyens, tous seront exécutés d'une façon nouvelle, proposée par le docteur Joseph Louis et promue par le docteur Guillotin. Une façon d'exécuter qui doit donc rendre les gens égaux dans la mort et par ailleurs rendre celle-ci plus humaine et indolore. C'est réussi. En effet, la mort à la guillotine est indolore et les exécutions à la guillotine sont en général bien plus dignes. Se déroule de façon beaucoup plus calme que les exécutions habituelles. Mais les Parisiens ne sont pas contents. En voyant Pelletier mourir d'une façon aussi rapide et nette, ils se sont en fait sentis floués de cette fonction cathartique et édifiante dont Michel Foucault parle pour les exécutions. Et ils vont même écrire une chanson qui s'appelle « Rendez-nous la potence » pour réclamer le retour des exécutions à l'ancienne avec plus de spectacles. Malheureusement pour eux, la Convention va conserver la guillotine et celle-ci restera utilisée en France jusqu'en 1980, date d'abolition définitive de la peine de mort. Les exécutions donc de la Révolution française, des exécutions qu'il faut souvent replacer dans le contexte de la guerre civile qui à partir de 1793 déchire le pays. Donc il y a à la fois une invasion du territoire national par la coalition étrangère, mais aussi des soulèvements dans l'Ouest et le Midi contre la Révolution. Par ailleurs, le caractère sanguinaire de ce qu'on appelle la terreur a été grandement exagéré par la propagande soit étrangère, soit royaliste. Il reste que des dizaines et des dizaines d'exécutions vont avoir lieu en cette place de grève avec la guillotine. Des exécutions qui vont d'ailleurs fortement incommoder le voisinage puisque les voisins vont se plaindre de l'odeur et surtout de la baisse des prix de l'immobilier à cause de la guillotine. La guillotine va donc être transférée place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, là où sera guillotiné Louis XVI, puis elle sera amenée place de la Nation. Et c'est à la fin du XIXe siècle que l'on décidera de ramener la guillotine à l'intérieur des prisons pour ne plus faire d'exécution publique. Celle de Paris se trouvait en l'occurrence dans le 14e arrondissement, à la prison de la Santé. C'est donc la fin de notre voyage dans le côté obscur de Paris, ce voyage qui nous a amené dans le quartier de Châtelet et des Halles. Retrouvez bientôt d'autres épisodes de cette série pour vous emmener dans d'autres endroits et pour découvrir d'autres facettes de l'histoire sombre de Paris. À bientôt.